19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici même dans les informés, jusqu'à 20h, ensemble pour analyser, commenter et décrypter, enfin dans l'ordre, commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors au menu, ce que je vous propose ce soir, eh bien plusieurs sujets qui nous ont retenu notre attention. D'abord, vous le savez, vous, au 01 53 48 3000, en vous annonçant la très bonne nouvelle, vous avez la connexion numérique, le DAB+, sur la ville et la région de Saint-Étienne. Quelle bonne nouvelle! Bonne nouvelle parce que aussi on a un beau bassin d'écoute là-bas. Voilà, que de DAB+. Tout ça fait grandir notre famille, Beurre FM évidemment, avec toute sa communauté et de sa diversité ici même. Et on est très heureux de partager cela avec vous. Le menu donc de ce soir jusqu'à 20h. Tout d'abord, nous irons évidemment direction l'Ukraine, avec cette guerre évidemment sans fin. Nous parlerons, vous savez quoi, de ces Africains, de ces Maghrébins qui sont triés et on parle d'ores et déjà de racisme, puisque eux-mêmes aussi, hein, comme les Ukrainiens, veulent se rendre donc en direction de l'Europe et puis ils sont heurtés, évidemment, à une complexité. Notamment, on parle de racisme, on en parlera tout à l'heure avec les débatteurs. Autre sujet, c'est, vous savez, ce soir, Emmanuel Macron, le président, le chef de l'État, qui parle ce soir dans une poignée de minutes, d'ailleurs à 20h précisément. Que va-t-il nous annoncer? Ben, nous, on a notre petite idée, on vous fera part de cela. Autre sujet aussi qui a retenu notre attention, c'est les oligarques, les manifestants anti-Poutine. Tiens, ça existe? Oh là 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 là! Eh bien oui, figurez-vous, oui, merci pour la clochette, mon cher Yelizet Ayanis, c'est ça. Eh bien ça existe, oui ça existe, parce que figurez-vous que, paraît-il, que la chose prend de l'ampleur, petit à petit. Et puis, vous le savez, on parlera aussi de... Taubira, Christiane Taubira, qui lâche sa candidature. Ça y est, elle a décidé de renoncer à cette présidentielle et surtout à la campagne. Quelle stratégie pour elle? Évidemment, on le sait pourquoi. C'est, elle n'a pas réussi à parvenir à récolter tous les parrainages. Eh bien, nous commenterons ce sujet. Ensuite, vous le savez, direction la Tunisie, parce qu'on a un des nôtres que vous connaissez, c'est une voix familière. Raïd Chaibi, qui est le président de la coopération franco-tunisienne, il est avec nous, c'est notre invité de 19h, justement, il rentre d'une grande consultation nationale, et puis aussi de cet élan solidaire, quand on parle d'éducation solidaire, on en parlera avec lui dans une poignée de minutes. 19h30, c'est le Quoi de Neuf, avec le docteur Majid Seoussine, et son billet d'humeur, ce soir, est consacré à cette guerre ukrainienne. Voilà le menu que je vous propose, vous le savez, et... je vous remercie puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Les informés, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec justement le président de l'association franco-tunisienne. Bonjour monsieur Raïd Chaibi.
Bonjour Adil Farkan.
On connaît, bonsoir. On vous connaît, hein. Effectivement, vous rentrez à peine de Tunisie, d'un séjour concernant une consultation nationale, on va en parler, on parlera aussi de cette éducation solidaire. D'abord, tout d'abord, Raïd Chaibi, monsieur le président, comment s'est passé, comment s'est déroulé ce déplacement en Tunisie, notamment, vous rentrez dans quel état d'esprit?
Combatif, parce qu'effectivement, je suis parti en Tunisie dans le cadre d'un projet pilote que nous menons dans trois pays africains, en Tunisie, au Maroc et en Côte d'Ivoire. Donc ce projet, effectivement, que nous menons en Tunisie, c'est un projet qui consistera en, je dirais, la création d'un tiers-lieu éducatif dans la région de Kasserine, symboliquement connu parce que ça a été un des berceaux de la révolution.
Vu, oui, effectivement.
Effectivement. Donc, j'ai
pour abriter ce projet d'éducation solidaire, dit-on. Hein.
Tout à fait. Voilà. Éducation solidaire, pourquoi? Parce que ce tiers-lieu éducatif aura pour objectif d'avoir en son sein un pôle dédié à la culture et à la lecture, d'avoir également un pôle dédié au soutien scolaire et à l'aide aux devoirs, et d'avoir un pôle, on va dire, informatique et numérique pour l'élaboration de projets.
C'est donc un projet pilote, hein.
C'est un projet pilote. Exactement. Projet pilote qui sera réalisé dans la région de Kasserine et dans une région du Maroc et dans une région de Côte d'Ivoire. Donc ce déplacement a eu pour vocation de lancer le projet, de rencontrer les autorités sur place. Donc je remercie d'ailleurs l'ambassadeur André Parent pour l'attention et la très grande écoute et la bienveillance confiance qu'il m'a accordé. Et bien sûr, les autorités tunisiennes, je pense en particulier au cabinet de la chef du gouvernement, Najla Boudène, et l'ensemble des ministres que j'ai rencontrés, le ministre de la Jeunesse, madame la ministre chargée de la Femme, de la Famille, de la Petite Enfance et des Seniors, et la ministre des Affaires Culturelles. J'ai pu constater à quel point ils étaient au travail, la volonté également de faire avancer les choses là-bas et surtout de travailler en transversalité.
Raïd Chaibi, Monsieur le Président, on voit qu'évidemment il y a là une implication à la fois politique, économique, sociale, sociétale de l'association que vous incarnez, franco-tunisienne. Une question très simple. Est-ce que vous pratiquez ce qu'on appelle la diplomatie parallèle ?
Alors, moi j'appelle ça la diplomatie associative. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se substituer aux diplomates, et qui font d'ailleurs ça très très bien, et c'est leur rôle. Mais je considère que dans le maillon de cette chaîne, et notamment aujourd'hui, dans les temps qui courent, dans ces temps de crise sanitaire, et malheureusement, comme la crise que nous sommes en train de vivre à l'est de l'Europe, il y a cette nécessité d'avoir les acteurs de la société civile qui puissent être des forces d'appoint, des forces d'appui sur le terrain pour accompagner les initiatives, accompagner les projets, parfois faire figure de médiateur, de pouvoir parler sur le terrain et d'être ces relais-là. L'avantage que nous avons, nous les acteurs de la société civile et notamment les associations, c'est que parfois on peut dire franchement les choses et on peut les dire tel qu'un diplomate ne pourrait peut-être pas forcément le dire. Donc c'est comme ça que je perçois mon rôle, celle d'un, modestement, d'un diplomate associatif qui essaye, du mieux qu'il le peut, de contribuer à renforcer les liens et les relations entre la France et la Tunisie.
Alors justement, votre déplacement, Raïd Chaibi, Monsieur le Président, était consacré à cette fameuse consultation, voulue d'ailleurs par le Président Saïd, justement. Elle a recueilli à peu près 50 000 participants.
Alors le déplacement, il était surtout basé sur le projet-là de l'éducation solidaire. Mais dans le cadre de mon déplacement, effectivement, j'ai pu, parce que je suis aussi citoyen tunisien et que nous sommes dans une période où effectivement le président de la République tunisienne, suite aux mesures exceptionnelles qu'il a décidé de prendre le 25 juillet dernier, et dans le cadre de la feuille de route qu'il s'est fixée.
Avant de vous poser la question, ce projet pilote, comment va-t-il s'inscrire justement votre agenda dans les mois et les années à venir? Vous nous parlez évidemment de 3 pays.
Oui.
Comment tout cela va s'inscrire? Comment les choses vont se faire matérialiser entre les différents pays?
Alors, pour les 3 pays, il y aura un coordinateur par pays. Il y aura mon ami Naïma Sifer, qui est élu dans la ville d'Angerville, dans le 91, qui va coordonner pour la partie marocaine, et Joël Sangaré, un jeune avocat franco-ivoirien, qui va piloter les choses au niveau de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il revient de Côte d'Ivoire. Donc, l'idée, c'est premièrement de cibler les régions, deuxièmement de prendre attache avec les acteurs locaux et les acteurs étatiques, et dans un second temps, par la suite, d'organiser toutes les réunions nécessaires, toute la partie opérationnelle pour définir les lieux et ensuite élaborer les aménagements disponibles, rechercher les financements pour définir et surtout mettre en place ce type de projet. Donc c'est sur plusieurs phases, plusieurs étapes. On en est à la première et on va accélérer le processus.
Ce projet pilote est-il financé ? Est-ce qu'il s'agit là d'un autofinancement ? Est-ce qu'il est accompagné aussi, y compris par l'État et les différents États, justement, de ces différents pays?
L'objectif, c'est surtout de renforcer la coopération décentralisée. C'est-à-dire que lorsque nous allons faire ce projet, l'idée, c'est mettre une synergie, de fédérer, quelque part, les collectivités locales qui accepteraient d'accompagner cette initiative d'un point de vue, on va dire, sur l'aspect d'ingénierie ou sur l'aspect financier. Donc évidemment, nous allons solliciter les collectivités locales pour ça. Nous allons solliciter également les opérateurs économiques privés qui pourraient éventuellement être intéressés pour accompagner cette initiative, et aussi des groupements d'élus qui se sont montrés intéressés dans l'accompagnement de ce projet. Je pense notamment à l'Association internationale des maires francophones, par exemple, qui s'est montrée fortement intéressée, très impliquée sur ces questions-là. Donc on va faire en sorte de créer cette synergie, ce que j'appelle moi l'action multilatérale.
C'est-à-dire cette synergie, Monsieur le Président, quel est son enjeu?
Mais l'enjeu, c'est de
dire quoi, économique?
C'est qu'en fait,
politique,
dans la crise que nous sommes en train de vivre, la crise sanitaire qui a débouché, vous le voyez bien, vous le voyez tous les jours, sur une crise économique et sociale, elle doit déboucher sur une coopération exceptionnelle. À crise exceptionnelle, solidarité exceptionnelle. Et qui dit solidarité exceptionnelle dit action multilatérale. Ça veut dire de mettre autour de la table des acteurs qui d'habitude restent chacun dans son coin ou opèrent chacun dans son coin. Donc mettre les acteurs associatifs aux côtés des acteurs économiques, aux côtés des élus locaux, bien évidemment accompagné par les États des différents pays, mais de créer cette synergie locale et surtout de compter sur les acteurs là-bas, sur place, en Tunisie. Ce projet d'éducation solidaire, par exemple, je prends le cas de la Tunisie en l'espèce, mais il ne pourra se réaliser qu'avec les acteurs locaux également, notamment à Kasserine. On a des associations qui, effectivement, œuvrent beaucoup dans le soutien scolaire, ou alors, justement, dans l'insertion des femmes, dans ce volet inclusif. Donc, on fera en sorte de les associer également à cette initiative-là.
Mais cette initiative, justement, avec un projet d'une telle ampleur, comment vous le financez ?
Ben, je viens de vous le dire. L'idée, c'est...
Mais dans chaque pays, vous n'avez pas répondu à la question, dans chacun des pays, comment on finance ce tel projet ?
Bah, si vous voulez, il y a l'aspect technico-pratique, c'est-à-dire comment on va définir ce lieu. Est-ce qu'on prend un bâti existant ? Est-ce que on utilise, par exemple, c'est une piste qu'on est en train d'explorer pour la Tunisie, utiliser des containers, puisque ça se fait beaucoup, de requalifier des containers pour créer des start-up ou pour créer, par exemple, des bibliothèques mobiles. On est en train de retravailler sur ça, et ensuite les financements disponibles, on ira revoir le département, on ira voir la région Île-de-France pour le coup, puisque notre association est basée ici même dans la région Île-de-France, mais également on sollicitera des appuis techniques de la part de d'autres collectivités qui viendront s'associer à cette initiative-là et les opérateurs économiques privés.
Monsieur le Président, Rayed Chaibi, on va parler de cette fameuse consultation voulue par le Président Kais Saied, justement, avec... Alors, je vous pose la question, certains considèrent que cette consultation est un peu timide, démarre timidement, hein. Elle a commencé mi-janvier, me semble-t-il.
Tout à fait.
Alors, vous répondez quoi ? Elle démarre timidement aujourd'hui ? Où en est-on dans cette consultation nationale ? Moi, j'ai quelques chiffres à vous soumettre. Évidemment, quand on regarde la consultation nationale, on a quand même, on n'est pas loin d'un chiffre. Ça, on parle de 240 000 à peu près de participants. À peu près, oui. Il y a des hommes et des femmes, un peu plus d'hommes que de femmes. Je ne sais pas si on peut le regretter. Il y a un peu plus de quarantenaires dans la proportion, évidemment, de la tranche d'âge. Et les rubriques sont s'étalent, évidemment. Hein, ça va du développement durable en passant par l'économie, l'affaire. Que cherche-t-il avec cette consultation nationale, notamment vous, président de la coopération franco-tunisienne ? On vient vous chercher pour quelle raison concernant cette consultation nationale ?
Bah, tout d'abord, je suis citoyen tunisien aussi. Il ne vous aura pas échappé que je fais partie de la diaspora tunisienne et que la diaspora tunisienne est partie intégrante de la Tunisie, première chose. La deuxième chose, j'en parlais tout à l'heure, cette consultation a été voulue par le chef de l'État à la suite des mesures exceptionnelles qui ont été prises. Elle était définie dans la feuille de route. Elle a commencé le 15 janvier et elle se finit dans les tout prochains jours, dans 18 jours précisément, le 20 mars. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette consultation, c'est quand même unique dans le monde arabe. Au Maghreb, notamment. Je ne connais pas beaucoup de pays où certains parlent de dictature pour qualifier la Tunisie en ce moment, mais je ne connais pas beaucoup de dictatures qui font appel à son peuple, ou en tout cas au peuple, aux citoyens, pour demander leur avis sur des sujets aussi importants que les affaires sociales, que les affaires politiques, que sur l'économie.
Ça engage l'avenir de la Tunisie.
Ou sur l'environnement. C'est surtout que la volonté du chef de l'État, que j'ai trouvé assez intéressante, c'est d'avoir ce dialogue inclusif et de proximité. J'ai participé d'ailleurs à cette consultation nationale, comme n'importe lequel de mes compatriotes. J'ai fait part de mes avis sur les éventuels.
Dans quel domaine ?
Sur notamment sur la révision constitutionnelle, par exemple. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une révision constitutionnelle. On ne peut pas, si vous voulez, pardon d'être un petit peu très technique, mais aujourd'hui, pour être simple, la constitution tunisienne de 2014, c'est exactement la même constitution qu'avait la France en 1946, c'est-à-dire la 4ème République. Comment qualifier le général de Gaulle, cette constitution de la 4ème République ? Il l'a qualifiée comme une constitution qui était le régime exclusif des partis, qui consacrait le régime exclusif des partis. Comment ça a fini ? Avec une 4ème République qui a duré 12 ans, de 46 à 58, 12 ans, 21 gouvernements. 21 gouvernements. Bon, la Tunisie, depuis la révolution de 2011, c'est 10 ans de révolution, 12 gouvernements. C'est le gouvernement de Najla Boudène, c'est le 12e gouvernement en 10 ans. Cette constitution-là, malheureusement, il y a aussi des coquilles. Il y a aussi des choses qu'il faut absolument, améliorer. Et puis surtout, ce qui était aussi dérangeant, et surtout dans un pays comme la Tunisie, qui est durement frappé par la crise économique et sociale, c'est qu'il est sidérant. Et là, c'est plus le citoyen tunisien qui parle. C'est qu'il est sidérant qu'à partir du moment où un chef de gouvernement est nommé, et le moment où il obtient le vote de confiance, il s'écoule entre 3 et 4 mois.
Vous le regrettez ?
Mais on, la Tunisie ne peut pas attendre 3 ou 4 mois avant d'avoir un chef de gouvernement qui est totalement lié à ce qui se passe, totalement lié surtout au parti, à ce régime exclusif des partis. Alors, c'est surtout ça. Et donc, l'idée aussi, c'est d'avoir un parlement qui soit, je dirais, représentatif.
Mais elle vise qui, cette consultation?
Elle vise les Tunisiens.
Elle vise les jeunes, les vieux.
Elle vise tous les citoyens. Mais permettez-moi d'avoir un mot sur le parlement. Il s'agit ici d'avoir un parlement. Je n'imagine pas un seul instant la Tunisie ne pas être dotée d'un parlement. Mais ce parlement qui a été bloqué, parlons-en de ce parlement et je vous remercie de m'en donner la parole.
Il nous reste 2 minutes.
Il n'y a pas de souci. Je ne pouvais pas cautionner que des parlementaires représentants du peuple, se permettaient de parler de femmes en les qualifiant d'usines à procréer, des femmes isolées les qualifiant de prostituées, de dire que les binationaux, donc moi par exemple, on les qualifiait de bâtards. Ou alors, certains parlementaires de cet arc majoritaire se permettaient de justifier l'assassinat de Samuel
Donc,
Paty.
Faut en finir avec
C'est ça.
Ça
le parlement?
C'est ça, il faut en finir
non.
avec cela.
Il faut un parlement qui puisse travailler pour les intérêts du peuple tunisien. Point à la ligne, c'est tout ce qu'on demande. Et cette consultation, elle permet effectivement aux citoyens de pouvoir, je dirais, exprimer leur avis sur les réformes nécessaires et surtout de pouvoir exprimer leur avis sur des thématiques régionaux. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais que c'est une démarche inclusive régionale, c'est que chaque citoyen peut faire part sa problématique dans sa région.
On arrive au terme de cette interview. Dites-moi, Monsieur le Président Raed Chaibi, vous n'avez pas répondu à la question. Cette consultation aujourd'hui, elle démarre timidement.
Alors,
où en est-on? Certains parlent d'ailleurs même d'échec. Vous répondez quoi?
Je ne parlerai pas d'échec. En revanche, certainement, elle n'a pas eu la communication qu'elle méritait d'avoir. C'est vrai, de dire le contraire serait regarder ailleurs. Mais moi, ce que je veux faire, et je veux en profiter, parce que moi, je veux surtout voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Moi, j'en appelle à la diaspora. On a souvent été négligé, on a souvent été stigmatisé, on a toujours été mis à l'écart. La diaspora tunisienne, je le rappelle, cher Adil Farkan, c'est 800 000, environ 1 million d'enfants de la Tunisie en France, mais surtout c'est 1 500 000 enfants de la Tunisie dans le monde. Nous représentons 10% de la population. Nous devons nous exprimer. Donc j'en appelle à mes compatriotes de la diaspora à aller sur le site e-istishara.tn de s'inscrire pour obtenir les codes permettant de pouvoir s'exprimer, d'utiliser surtout le code de leur carte nationale d'identité, c'est très important, parce que ceux qui n'ont pas de carte d'identité tunisienne peuvent utiliser leur passeport, mais ceux qui sont détenteurs de la carte d'identité tunisienne doivent utiliser le code de leur carte d'identité tunisienne. En tout cas, exprimons-nous.
Eh bien écoutez, c'est dit je crois sur cette consultation. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Vous nous tenez au courant.
Très bien.
Évidemment de cette consultation concernant donc consultation voilà qui a été très aisément exprimée par Raed Chaibi. Merci infiniment président
merci
de la
vous.
Coopération franco-tunisienne. Merci. Tout de suite, on va marquer la première pause pub et on se retrouve avec justement Rudy Kazi et Kamal Abina. Tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
19h24, tout de suite, on est très en retard. Aïe, 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 nous allons tenter de rattraper le temps perdu. Le face-à-face, c'est parti.
Les informer, le face-à-face.
Le face-à-face est avec Rudy Kazi. Bonjour, il est acteur politique, élu, et également aussi l'AEF, l'Association des élus de France, que de casquettes et évidemment beaucoup de chantiers. Bonsoir, Rudy Kazi.
Bonsoir Adil, merci pour l'invitation encore une fois.
Avec plaisir. Face à vous, c'est celui évidemment qu'on ne présente plus, Kamal Abina, un acteur tout simplement de notre société civile, de la société civile. Vous avez fait pas mal de médias, dites donc. Hein. On voit partout en ce moment qu'est-ce qui se passe là. Vous avez le temps.
Années en plus.
Mais là, il a multiplié. Il a accéléré. Il a sur la guerre en Ukraine. Il était partout. Kamal Abina, bonsoir.
Bonsoir. Merci pour l'invitation encore une fois.
Avec plaisir.
Il y a pas le monde qui m'appelait.
Avec plaisir.
D'ailleurs, j'aimerais parler d'un sujet, si c'est possible.
Dites-moi, lequel?
Alors, j'aimerais parler de ce qui se passe avec la chaîne RT France, parce que
RT et Spoutnik.
Spoutnik.
Bon, en ce moment, ils sont un peu.
Avec les deux, un temps, j'ai fait un article chez Spoutnik, mais surtout RT qui était extrêmement ouverte à la diversité, ce que je dis régulièrement.
Oui.
Ils ont été purement et simplement bannis, comme dit l'Europe. Mm-hmm. Sauf que le bannissement n'est pas une règle de droit. Et évidemment, c'est une contradiction dans la mesure où d'abord, la France n'est pas en guerre contre la Russie, ni l'Europe d'ailleurs. C'est pas une guerre.
Vous avez raison de le rappeler, effectivement.
De la CE contre la Russie. Mais ils se sont engagés de façon violente. Pourquoi? Pour faire payer une chaîne qui a quand même une certaine indépendance d'esprit et qui, en dépit de toute la propagande racontée contre elle, parce qu'il faut la voir pour en parler, cette chaîne proposait toujours les deux sons de cloche, jamais une seule direction. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des propositions opposition en faveur plutôt des Russes, et puis ceux qui étaient en opposition des Russes, mais c'était quand même une ligne éditoriale qui correspondait en gros aux autres chaînes de télévision, sans la propagande. Aujourd'hui, on est en position de propagande.
Donc vous apportez votre soutien ?
J'apporte mon soutien total pour deux raisons. La première, parce que d'abord, il nous retire une liberté d'expression dans une chaîne, qui quand même était nationale. Ensuite et surtout parce que la plupart des membres, ils sont 176 salariés, vont être mis quasiment demain au chômage technique puis au chômage tout court. Et ils le font d'autorité en deux jours, c'est du jamais vu. Hein, je veux dire, fermer une télévision en trois jours quasiment, c'est assez...
Ah, c'est toujours triste de toute façon quand on parle de fermer une radio, une télé ou un média tout court. Hein.
Oui, mais là c'est pire, c'est parce qu'on a un média qui, est quand même, qui avait une audience qui était bien reçue, qui avait couvert de façon assez magistrale les Gilets jaunes et tout un tas de mouvements sociaux, qui avait quand même des qualités dans les interventions, dans les émissions, des émissions de politique, des émissions de débat, c'était très riche et puis surtout c'est sans coup férir, on n'a même pas attendu de demander au salarié.
L'animateur vedette, le présentateur vedette Frédéric Taddeï a suspendu ses émissions.
Suspendu, mais il n'avait pas démissionné.
Et c'est Vidal d'ailleurs aussi, Nicolas Vidal, un des grands éditorialistes de la chaîne.
C'était une décision personnelle.
Personnelle,
absolument. Au rapport géopolitique, mais surtout, c'est là où je rappelle que la France n'est pas en guerre contre la Russie, c'est pour ça que c'est grave, mais surtout de se rappeler quand même que la directrice, que je salue au passage, a été, Xenia Fedorova, a été menacée de mort à de nombreuses reprises alors qu'elle est directrice d'une chaîne. Donc là, quelqu'un lui a même promis de lui faire un coup à la Charlie. Donc vous imaginez un peu le niveau. Donc c'est en cela que je dis que je leur apporte tout mon concours et mon soutien. Je considère qu'on ne peut pas accepter la dictature de la pensée unique états-unienne. Et donc, pour finir, qu'il faut qu'ils se pourvoient en justice et qu'ils remportent la décision sur un plan judiciaire.
Eh bien, le message est passé, effectivement. Gamal Abina, nous allons démarrer ce premier sujet qui concerne, vous savez quoi, la guerre en Ukraine. Mais je voudrais faire un focus, plus particulièrement, parce que c'est notre rôle, nous, médias, Beurre FM, les informer d'en parler. Les autorités faisaient le tri. Quand je parle des autorités faisaient le tri, je parle de cette guerre en Ukraine, et notamment en Ukraine. Parce que figurez-vous, mesdames et messieurs, à la frontière ukrainienne, eh bien, les réfugiés africains et maghrébins étaient victimes de racisme, de discrimination. Des milliers d'étudiants n'ont rien demandé, ils voulaient simplement fuir les combats en Ukraine. Et ils ont été refoulés dans les gares, à la frontière de la Pologne, déclenchant, entendez bien ce que je vous dis, l'indignation sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai reçu plein de messages, et en recevant ces messages, j'ai dit... Je veux qu'on en parle. Rudy Kazi, je voudrais vous entendre, messieurs.
Mais c'est dramatique.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous avez pas mal d'étudiants.
On fait le tri. Vous vous rendez compte ? On fait le tri. Non, toi, t'es noir, non, tu passes pas. Non, toi, t'es arabe, tu passes pas.
D'origine africaine, qui sont effectivement, qui sont mis de côté. En fait, elles veulent sortir, elles veulent quitter le pays pour rejoindre la Pologne, la Hongrie, ces pays-là. Et en fait, elles sont maintenues aux frontières pendant plusieurs heures. J'ai entendu des témoignages de jeunes étudiants qui
j'ai reçu beaucoup de vidéos,
ont mis
moi.
Énormément de temps pour pouvoir se déplacer. Parfois, certains ont pris des taxis qui n'ont pas voulu.
On m'a même appelé SOS. Hein.
Ils ont dû parfois rejoindre la frontière après 2-3 heures de marche pour, une fois s'y retrouver, qu'on leur bloque l'accès au passage vers que ce soit la Pologne ou autre. Oui. Et parfois pendant 3-4 heures. Et certains, on les a même nassés, c'est-à-dire en fait, bon, on a fait, comme vous disiez à l'instant, on a fait du tri, on a parqué entre africains, tout ce que vous voulez, noirs, subsahariens, etc. On les a parqués dans un coin, et le temps d'attendre. Moi, tout à l'heure, j'ai une conversation.
Comportement raciste ou pas?
Bah, évidemment.
Évidemment. D'accord, je voudrais l'entendre, je veux.
Alors, c'est vrai qu'on s'indigne beaucoup de ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est beaucoup de personnes qui meurent, des enfants qui meurent.
Donc, traitement inacceptable, c'est ce que vous dites.
Une centaine de morts, effectivement, il y a deux jours, donc traitement inacceptable. Là-dessus, on peut comprendre, effectivement, on peut condamner l'action de la Russie de vouloir envahir l'Ukraine, effectivement, d'accord. Et les morts, surtout, que ça engendre, mais c'est pas pour autant que ça doit légitimer le racisme. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un cousin, une figure musicale, Benji notamment, qui est un ancien chanteur, bien sûr.
Secteur A. Ah oui, Benji, vous nous parlez de Benji.
Marron, etc.
Ça, c'est les années, évidemment, la belle période.
C'est
hein.
La famille. Et donc, il me disait qu'il recevait des dizaines de demandes d'aide, de personnalité, qu'il identifiait comme quelqu'un qui peut éventuellement faire quelque chose. Et vous voyez, en fait, que c'est très difficile de pouvoir déjà pénétrer le pays et de pouvoir venir en aide à ces populations qui... Alors après, il y a des démarches des pays du Ghana, du Sénégal, du Maroc, etc., pour essayer de récupérer leur...
C'est ça, le rapatriement.
Mais c'est extrêmement difficile. Alors moi, le sujet, c'est quoi ? C'est est-ce que la guerre justifie le fait de revenir à des instincts ?
Non, mais attendez, c'est clair. Ils le disent. Moi, j'ai reçu des éléments sur WhatsApp. J'ai jamais autant reçu de messages en disant qu'il fallait que j'en parle à la radio, qu'il fallait que je le traite. Alors, des messages en disant on est refoulé parce qu'on est noir et parce qu'on est arabe. Vous rendez compte? Je vais retrouver ces vidéos. Vous savez quoi? J'ai même les diffuser. Je vais demander à Yanis.
J'en diffuser quelques-uns. Davantage.
J'en diffuser peut-être quelques-uns si le temps nous le permet.
Sur les médias mainstream, je trouve qu'on n'en parle pas.
Bah, pas du tout, même. Là, pour le coup, on n'en parle pas du tout. 19h31 avec une minute de retard et on entendra Gamal Abina et son point de vue concernant ce comportement raciste à l'égard des Arabes, des Maghrébins, pardon, et des Arabes, des Maghrébins et des Noirs. Tout de suite, pour l'heure, c'est le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est comme chaque mercredi, c'est avec le docteur Majid Sehoussine, qui est le chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également à l'hôpital des Invalides auprès des militaires et au SAMU. Bonsoir mon cher docteur Majid Sehoussine.
Bonsoir Adil.
Eh bien, vous avez décidé de consacrer ce soir votre billet d'humeur, on vous écoute sans tarder, consacré à la guerre en Ukraine. Mon cher docteur, on vous écoute, à vous la parole.
Merci mon cher Adil. Difficile en effet de parler d'autre chose que de l'Ukraine. C'est difficile aussi de faire l'humour quand on sait ce qui va se passer, quand on voit des colonnes de réfugiés qui tentent de fuir l'avancée des troupes, les bombardements. Ici en France, vous savez, la plupart des gens ne savent plus ce qu'est la guerre. Et beaucoup s'étaient installés dans une sorte de confiance, la guerre c'était toujours pour les autres. Vous vous en souvenez peut-être mon cher, je vous avais mis en garde dans une chronique il y a quelques mois, l'état-major de l'armée française travaille sur l'hypothèse d'un conflit majeur à l'échelle de 2030. Mmh. Il faut donc que nous nous préparions peut-être à exposer à quelque chose que nous ne connaissons pas. En tout cas, pour vous, Adil, il va falloir que vous renonciez à pratiquer du saut à l'élastique et à jouer à la marelle.
Clochette, voilà ce que vous méritez.
Il va falloir que vous vous mettiez à faire de longues marches, à faire des pompes.
Du judo comme Poutine.
Ouais, voilà. Parmi les victimes inattendues de ce conflit, en dehors des consommateurs qui vont voir les prix flamber, il y en a deux qui sont fameuses. D'abord François Fillon, dont on avait déjà parlé, qui se retrouve dans une grande difficulté financière, puisque désormais il a démissionné des deux conseils d'administration de sociétés russes dans lesquelles il siégeait. Schröder, ancien chancelier allemand âgé de 78 ans, n'a pas eu cette élégance, lui, puisqu'il s'accroche à son poste dans un géant des hydrocarbures, provoquant la colère, y compris des personnels qui sont détachés par l'État allemand auprès de lui pour le servir, qui demandent à être affectés ailleurs. Et je dois vous dire que je suis inquiet, Adil, pour une star nationale.
Ah.
Marine Le Pen.
Ah oui.
Car voyez-vous, avec les sanctions qui touchent les banques russes, j'espère qu'elle a déjà reçu son petit virement de Moscou pour financer sa campagne. Car si ce n'est pas le cas, je compte sur notre Premier ministre Jean Castex pour lancer un téléthon. Un téléthon, disais-je, pour la financer, comme il l'avait fait avec le succès que l'on a pu constater pour qu'elle ait ses parrainages, ainsi qu'Éric Zemmour et notre chère radicale ancienne secrétaire garde des Sceaux, qui a dû renoncer, elle.
Oui.
Et enfin, pour finir, je voudrais attirer votre attention sur un fait dans cet immense élan de solidarité bien naturel pour accueillir les réfugiés ukrainiens en Europe, sur ce qui se passe à la frontière polonaise et dont vous parliez à l'instant, où l'on a mis en place un tri sélectif,
oui,
accueillant les Ukrainiens,
c'est ça,
et repoussant les Africains. Même dans le malheur, il y a de vieux réflexes qui persistent et qui en disent long sur le monde de demain.
Oui, ouais, en raison de la couleur de la peau. Vous avez raison, hein. La couleur de peau. Merci et bravo pour ce billet d'humeur, mon cher docteur Majid Sehoussine. Je vous retrouve à la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Avec joie, mon cher. Avec joie.
Merci. Portez-vous bien, mon cher docteur. Je suis extrêmement pressé parce que, évidemment, on a pris beaucoup de retard et on doit récupérer ce retard. Gamal Abina, juste après la pub, je voudrais entendre son point de vue concernant ces nombreux Africains, comme on vient de le souligner, qui veulent fuir aussi la guerre, comme les Ukrainiens d'ailleurs, et qui sont heurtés, hein, je le disais, heurtés à leur couleur de peau. Terrible. On est en 2022, les amis.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Si on retrouve l'antenne en direct, en live avec Gamal Abina, Rudy Kazi, vous aussi au 01 53 48 3000. On va écouter, tiens, le point de vue de Gamal Abina qu'on n'a pas évidemment entendu jusqu'ici. On vous écoute, Gamal.
C'est pas compliqué, je vais être très clair et cash. Dans cette guerre qui opposait au départ les pro-russes et les anti-russes, hein, c'est pas la première fois qu'il y a un problème entre les deux, on se rend compte que dans le Donbass, ce sont des néo-nazis. Alors les gens oublient ça. Ça ne justifie pas une guerre, c'est vrai. Mais dans tous les cas de figure, il y a bien des néo-nazis qui tuaient des populations civiles pendant 8 ans. C'était dit par une femme qui était sur place, une Française, donc on peut pas la soupçonner d'être pro-Poutine, et qui a dit qu'il y a eu 13 000 morts. Mais ça, c'est acté, hein, c'est confirmé. Parallèlement à ça, on a
le pays... 13 000, c'est pas le chiffre officiel. Hein.
Des deux côtés, c'est 4 000 et 4 000 plus les à côté. Mais bref, dans tous les cas de figure, on sait aussi, c'est pour ça qu'ils ont fait les accords de Minsk, on sait aussi, par exemple, que le pays d'Auschwitz, donc la Pologne, n'a pas été dénazifié. Contrairement à l'idée reçue, c'est qu'il est resté des réflexes très racistes, et les gens ne savent pas, par exemple...
La Pologne,
qu'après 46, il y a eu... Après 45, donc les camps sont libérés. Il y a eu des pogroms anti-juifs dans des villages polonais, après 45.
C'est vrai.
Donc quand on sait ça, et qu'on sait que la population n'a pas été éduquée à l'antiracisme, loin s'en faut, quand on sait que le président, il sent méchamment l'extrême droite, eh bien il est normal que ces gens, quand ils voient des Noirs et des Arabes à la frontière, ils ne veulent pas entendre parler d'eux. Ce sont des étudiants, ce sont des gens formés, donc il n'y a même pas l'excuse de dire que ce sont des voyous.
Des têtes bien faites, hein.
Des têtes bien faites, de haut niveau. D'ailleurs, je rends hommage à cet Algérien qui était dans le secteur... Et donc, à partir de là, lorsque l'on entend ce genre de choses, on se rend compte qu'on a vraiment un racisme.
Comportement racisme.
Mais clairement raciste, il ne faut pas chercher...
Décomplexé.
On les a parqués, c'est ça qui est grave dans le pays d'Auschwitz, comme des bêtes dans des hangars. On les a déconsidérés. On leur a dit, vous ne rentrez pas. Ils sortent d'une guerre, ils sont réfugiés de guerre. La guerre est claire. La guerre directe est claire. Tout le monde veut la documenter. Et j'ai envie de dire que les réflexes racistes qu'on a vus dans pas mal de chaînes de télévision...
On parle de qui, là?
Je ne vais pas donner nom.
Les éditorialistes,
en général, les éditocrates, ceux qui font la ligne éditoriale des chaînes. Qu'est-ce qu'ils vous sortent? Ils sont comme nous. Ils sont chrétiens comme nous, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'ils sont orthodoxes. Ils sont, ils partagent les mêmes valeurs. Bon, c'est des slaves.
J'ai entendu dire la même culture aussi.
Totalement faux. Rien de ce qui est dit est faux. Ils pouvaient sortir ça en Yougoslavie parce qu'il y avait évidemment, il y avait une partie qui était catholique, qui était plutôt de l'Ouest et tout, donc à la limite. Mais pas dans cette région-là. Cette région-là, ce sont des Russes. Toute la population ukrainienne parle russe. Contrairement à l'idée reçue, ce sont des gens qui se connaissent. Et surtout, en aucun cas, ils partagent les mêmes valeurs. Ce n'est pas du tout la même sphère. Et ce qui est amusant quand ils disent ça, ils disent quoi? Eux sont, je traduis, blancs comme nous.
Donc là, c'est pas amusant pour le coup.
Là, on tombe dans le racialisme crasseux des nazis, parce que c'est comme ça qu'ils définissaient les choses, en disant le blanc, le pas blanc. Alors, les racismes, il avait dit que les slaves étaient les sous-hommes, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, là, on a dépassé les bornes. Alors, quand ces gens-là vous parlent.
On a dépassé les bornes.
Largement. Mais quand ils vous disent ça, sans honte, et qu'ils vous disent, j'ai vu un journaliste anglais pleurer en disant, vous vous rendez compte, c'est des gens comme nous, blonds aux yeux bleus. Je suis désolé, la terminologie est claire. Eh bien, je dis que ce sont des racistes et des fachos. Et je m'inquiète pas de ce qui se passe seulement en Russie, où il y a un durcissement des positions, évidemment. Je m'inquiète de ce qui se passe en Europe occidentale, qui devient de plus en plus racialisante et raciste.
Rudy Kazi, je voudrais vous entendre. Oui, bon.
Bah c'est déplorable. Maintenant, je pense qu'il faut...
Mais quand on a dit ça, on fait quoi?
Bah maintenant, il faut poser des solutions concrètes. J'ai entendu dire qu'a priori, la France serait prête à accepter, à récupérer des ressortissants, notamment parmi ces étudiants qui sont devenus des réfugiés de guerre et en plus maltraités, victimes de racisme aux frontières. C'est déjà une bonne solution, mais le problème c'est qu'on est tellement obnubilé en fait par cette guerre que on ne voit plus en fait les massacres qu'il y a à côté. Et puis il y a d'autres types de massacres, il y a des viols, faut pas oublier que le viol c'est une arme de guerre. Le docteur Denis Mukwege le dit très souvent, prix Nobel.
Le prix Nobel.
Donc et là effectivement on fait l'impasse aussi sur toutes ces réalités parce que je trouve que le conflit a pris une dimension extrêmement médiatique eu égard effectivement à la parole présidentielle des différents chefs donc d'État présents dans l'OTAN, ce qui est à peu près normal, mais par contre il faut pas en fait que l'humanité soit mise au pilori d'une volonté d'exercer le pouvoir uniquement au travers donc de ces prises de parole et en plus d'une actualité politique qui est celle de la présidence de l'Union européenne par le président Emmanuel Macron. Il faut faire émerger les autres souffrances qui existent pour travailler.
Allez, il faut qu'on avance, messieurs, 19h44 précisément, en direct avec Gamal Abina, Rudy Kazi. Je voudrais parler, vous savez, on continue de parler de la guerre en Ukraine, mais il y a cette allocution d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à quoi peut-on s'attendre ce soir comme déclaration? Que va dire finalement le chef de l'État dans son allocution? Est-ce que vous avez quelques éléments de langage, Gamal Abina, et ensuite Rudy Kazi?
Je vais vous dire une chose bête qui a été dite récemment par une candidate qui n'ira pas bien loin. Valérie Pécresse dit, sérieusement, elle plaisante même pas, c'est vous dire un peu le niveau, elle dit, si je suis élue, je serai une chef de guerre. Bon, déjà, ça commence fort. C'est vous dire un peu le niveau. Elle sera jamais élue, tant mieux.
Emmanuel Macron s'exprime dans 15 minutes.
Oui, bien sûr. Il va dire quoi? Il va jouer le chef de guerre, évidemment. Il va jouer son petit De Gaulle. Il va dire quoi? Il va dire, il y a une guerre, ils vont nous faire tous les violons, quoi. Alors qu'ils ont poussé à la guerre et qu'ils ont abandonné les Ukrainiens. Je rappelle qu'ils les ont abandonnés. Il n'y a pas de soutien du tout, hein, à part des sanctions marginales qui coûtent à l'Europe. Parce que les sanctions, les conséquences, c'est qu'il y a des sociétés suisses qui sont en train de couler. J'ai un copain qui travaille dans une banque suisse. Il m'a dit que la moitié du personnel va être licencié à cause des avoirs russes qui sont gelés. Et donc, là, il va nous annoncer quoi? À la fois, cette posture d'homme d'État, chef de guerre gaulliste, quoi. Et de l'autre côté, qui va sans doute se présenter, parce qu'il doit le faire maintenant, à la présidentielle. On est sur le dernier quart.
Vous croyez qu'il peut annoncer ça?
Non. Il va le faire.
On est en pleine guerre, il va annoncer ça. Mais non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Les éléments que j'ai, c'est qu'il va parler des réfugiés, de l'accueil des réfugiés.
C'est blabla, ça.
Voilà. Bah, en tout cas, je pense pas que ce soit. Il va annoncer son.
Il ne va pas bouger l'agenda politique parce que.
Je suis pas sûr que ce soit, il fasse sa déclaration.
Non, parce que la Russie est en guerre en Ukraine. La France n'est pas en guerre.
Oui, mais bon, annoncer sa candidature alors qu'on est dans une situation de crise.
L'Europe n'est pas en guerre.
Je l'entends.
C'est pour ça que cette façon de mélanger les choses qui est assez malsaine, parce qu'il y a du médiatisme de la guerre et qu'on reçoit quelques petites images, il n'y a pas grand-chose qui arrive, et de faire croire que la France est en guerre, il y a un problème.
Rudy Kazi, vous partagez?
Non.
Ce que vient de dire? Non. Bah alors on vous écoute. C'est le principe des informés.
Je pense qu'il va pas annoncer sa candidature ce soir. Ça ferait trop mauvais genre, en fait, parce que
la crise,
elle est quand même importante. En fait, si Emmanuel Macron n'était pas le président de l'Union européenne depuis le début de l'année jusqu'au mois de juin, je pense que il aurait déjà envoyé des signaux comme quoi il se présenterait ce soir. Mais là, en fait, effectivement, c'est un conflit qui a entre guillemets, il a surpris médiatiquement les gens, alors qu'en réalité, c'est une guerre qui existe depuis une dizaine d'années, hein, notamment dans le Donbass. Mais par contre, l'accélération, effectivement, a surpris un peu les gens. Et de ce fait, on va peut-être dire qu'Emmanuel Macron se trouve dans une posture plutôt idéale pour lui. Mais là, je pense que plus le temps passe, plus ça commence à devenir compliqué. À un moment donné, il va vraiment falloir se déclarer candidat. Mais là, vu que ça fait quoi maintenant? 7 jours que le conflit est lancé.
7 jours. C'est ça.
La candidature doit être déposée au Conseil constitutionnel vendredi 18h30 ou plus tard, me semble-t-il. Ouais. Donc je pense pas que. C'est vrai qu'il y aurait une tentation à le faire.
Moi, je pense que vous voulez mon avis. Enfin, je le donne rarement.
Moi, je pense qu'il le fera.
Il le fera via Twitter. Ouais. Il annoncera sa candidature via Twitter.
Mais il le fera très sobrement.
Sobrement.
Il y a aussi une narration autour du conflit russo-ukrainien.
On peut pas mélanger tous les sujets dans le.
Qui fait qu'en réalité, maintenant, toutes les paroles médiatiques sont vraiment tournées. Je veux dire,
Gamal Abidine.
Alors, en fait, les médias, on parle que de ça.
On parle plus de campagne du tout.
Et puis après, c'est vrai que.
Certains ont suspendu d'ailleurs la campagne.
Moi, j'entends. Entre guillemets, de l'entourage d'En Marche, ce sera pas ce soir. Non, aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment parler de comment
des réfugiés,
est-ce qu'on souhaite
de l'accueil, de comment la France
sur, voilà,
je vais répondre à ça. Alors, Gamal Abidine.
Je vais répondre à ça. D'abord, Macron est président de l'Union européenne. C'est une présidence qui dure 6 mois, Macron est à 1 mois de la mandature. C'est quand même à ce moment-là qu'il doit se présenter. Macron bénéficie à plein de cette crise, je rappelle quand même qu'il gagne des points dans les sondages tout le temps, mais surtout de dire « je me présente parce qu'il y a une continuité présidentielle dans l'exercice de ma fonction, parce qu'il y a une crise », et il va en profiter de cette crise, évidemment. Il dit « j'ai tout fait pour améliorer les choses », il n'est pas en rupture avec Poutine, contrairement à l'idée reçue, il l'appelle avec Poutine, il l'appelle 1h30.
Oui, c'est change.
Mais il l'appelle tout le monde.
Non, c'est pas pareil, on n'appelle pas Poutine qui est en guerre pendant 1h30, c'est pas anodin. Et donc, quand il dit cela, il va dire il y a nécessité impérieuse, comme De Gaulle l'a fait à l'époque, en son temps, il y a nécessité impérieuse que je sois là pour la France, en faisant une sorte de sous-jacent, en faisant croire qu'il y a une guerre entre la France et la Russie, ce qui n'est pas vrai, parce que les conséquences économiques vont être extrêmement lourdes pour la France. Ça, c'est vrai. Parce qu'on sait déjà que le gaz, par exemple, les Allemands dépendent pour 60% du gaz allemand à un russe. Ils n'en ont plus. Donc, c'est compliqué. Parce qu'on espère peut-être gratter du gaz en Algérie, mais l'Algérie n'est pas en mesure d'alimenter toute l'Europe. C'est impossible. Parce que les Qataris ne peuvent pas le faire sauf par voie de mer, mais c'est compliqué. Donc, il y a toute une logistique qui va faire exploser littéralement le prix du gaz. Et quand l'essence et le gaz explosent, c'est une inflation qui va démarrer à 2, 3, 5, 10%.
Rappelons que la France dépend du gaz.
Le choc pétrolier est déjà consommé.
17%. Entre 17 et 20%.
Comment?
La France, on dépend entre 17 et 20%.
Oui, mais l'Atalanta, c'est pas le problème. C'est le transport. Le transport, ça fait augmenter mécaniquement le prix. Donc, le baril de pétrole est à $110 aujourd'hui. Le fait qu'il monte, il monte de 5% par jour. Le gaz a été multiplié par, écoutez bien le chiffre, en 6 mois, par 10.
C'est énorme.
Donc, c'est vous dire que là, les conditions, la crise.
Le pouvoir d'achat, les amis.
Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire.
Redis quasi.
C'est que. Le président, il est élu, effectivement, il est désigné comme étant président de l'Union européenne pour 6 mois. Ça veut dire en fait que l'élection présidentielle en France, c'est le mois prochain. Ah et oui. Donc, Il est président de l'Union européenne jusqu'en juin. Moi, je trouve de toute façon que l'élection présidentielle, elle arrive beaucoup trop tôt. Alors après, on a évoqué.
C'est une question de calendrier.
Des questions de calendrier, mais habituellement, c'est plutôt au mois de mai, en fait.
Habituellement, c'est au mois de mai.
Et je pense que si la date n'avait pas changé, je pense qu'on aurait peut-être pris un peu plus le temps et la mesure, notamment pour le président de la République, de gérer et en même temps le conflit et en même temps de gérer sa future.
Alors ne faut-il pas reporter les élections présidentielles ?
Non, il ne fera pas, lui.
Non.
Je pense qu'il est trop tard parce que.
C'est trop tard.
C'est après-demain que.
Même ça ne lui profite pas, Macron. Il ne va pas faire une bêtise pareille. Il surfe sur un nuage.
Mais je pense qu'il aurait fallu le faire pour avoir le temps de pouvoir vraiment travailler sur la question.
Un mot, s'il vous plaît, puisque je rends l'antenne dans 3 minutes. Un mot sur Christiane Taubira qui a annoncé officiellement de renoncer à cette présidentielle faute de parrainage suffisant. Peut-on le regretter, messieurs Gamal Abina ?
En aucun cas. Elle a été ridicule du début à la fin. Je suis désolé, moi j'aime bien Taubira. Je finis mon propos. J'aime bien Taubira. Dans certaines postures politiques.
Elle a été vainqueur de la primaire, rappelons-le.
Oui, c'est une plaisanterie.
La primaire populaire.
De 400 000 personnes, on a compris. Elle est vainqueur à 3 ou 4 mois d'élection. On arrive au bout de course.
Elle est où la démocratie quand on n'a pas réuni le nombre de parrainages ?
Là, on est d'accord sur les parrainages. Moi, je contre les
parrainages. Alors, je vous laisse finir votre propos. Allez-y.
Elle a disparu 5 ans. Elle réapparaît pour une élection. C'est extrêmement douteux comme méthode. Après, elle a fait des choses formidables avant, mais là, c'était vraiment, elle n'était pas nécessaire. Donc je pense que malheureusement pour elle, qu'elle jette l'éponge, c'était ultra nécessaire pour la gauche si elle veut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gauche.
Enfin, hormis Mélenchon.
C'est pour ça que j'y caresse plus Mélenchon. Je vais raconter un truc, je vous confie une chose incroyable.
Donc si je vous écoute on parle de crash.
Non, mais moi qui suis
c'est un crash
non,
pour elle
elle est finie, ouais. Mais moi qui suis anti-Mélenchon depuis longtemps, j'en arrive
à dire... Ça, on l'a compris. Hein.
Mais écoutez, vous allez rigoler. Oui. J'en arrive à dire aujourd'hui, il faut voter Mélenchon pour donner une chance à la démocratie. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où le seul personnage qui sera, pour moi, le scénario le moins grave, c'est Mélenchon. Donc ça veut dire.
Rudy Kazi, tiens, on va entendre votre propos et on rend l'antenne.
Non, alors par rapport à la question que vous posiez à l'instant, si c'est dommage pour la démocratie, oui, ça l'est, parce qu'elle n'a pas eu ses parrainages à temps.
Clairement.
Mais effectivement, ça pose le cas du moment, du temps qu'elle a choisi pour se lancer dans la campagne présidentielle. Je pense qu'effectivement, elle aurait dû prendre le temps de le faire beaucoup plus en amont. Et de toute façon, ça jette un petit peu aussi le questionnement et la remise en question sur le parti de gauche, qui, même au lendemain de la défaite en 2017, n'a pas pris le temps de reconstruire le parti avec cet effritement et la captation d'un électorat d'Emmanuel Macron. Les Olivier Faure, les Villeneuve, comment ça s'appelle ?
Laurent Lantaine.
Voilà, les François Hollande, etc. Ils ont rien fait pour pouvoir, au contraire, ils ont peut-être par leur absence torpillé le parti. Aujourd'hui, on se retrouve
Merci.
Dans une situation comme celle-ci.
Merci, monsieur. L'allocution à ne pas manquer d'Emmanuel Macron, c'est dans une poignée de minutes, à 20h, précisément, 20h aussi, précisément, un autre rendez-vous qui vous attend. C'est celui de Beurre FM. Bilal Lendemann, bonsoir. Quel est le programme ?
Justement, vous pouvez écouter, voir même aussi l'allocution de notre cher président. Monsieur Emmanuel Macron.
Et écoutez, Bilal Lendemann, vous mettez l'image.
On va parler de la Coupe de France avec le premier finaliste qui sont les Niçois. Oui, voilà, en Coupe de France. On reviendra aussi sur la nouvelle offre démentielle d'un certain Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain.
Oh,
il a donné son accord.
5 millions d'euros.
Son accord oral, il a donné au Real Madrid. Va savoir si le Real Madrid.
Il y a du Karim Benzema derrière.
Karim Benzema, peut-être Haaland aussi, qui le rejoindra la saison prochaine, en sachant, Adil, que le Real Madrid n'a pas recruté depuis certaines saisons.
Et on parle d'un contrat de 50 millions d'euros par mois pour Mbappé et 100 millions de primes à la signature pour
finir. Écoutez, ne pas manquer ce rendez-vous. C'est ce qui nous attend de 20h à 21h.
C'est ça, tout à fait.
Riche programme, comme tous les soirs d'ailleurs, vous le savez. Et que Bilal Lendemann, tout de suite dans une poignée. Merci à Gamal Abina, merci à Rudy Kazi, merci à la réalisation, à Yanis. Merci à vous tous. On remet ça demain, avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Bonne soirée, ciao.